un long et laborieux effort, les quatuors à cordes de Mozart.
Le quatuor, disions-nous dans une série récente des chemins de la musique, c'est la conversation en chambre, c'est-à-dire, simultanément, la révélation d'une unité, quatre instruments de la même famille qui ne font plus qu'un et qui semblent cohabiter harmonieusement dans ce lieu d'échange que nous figurons par cette fameuse chambre, et celle de la multiplicité, la conversation se développant selon des voies parfois imprévisibles, mettant en crise cette harmonie fragile de manière sans cesse renouvelée. C'est là que la question du sens, si difficile à aborder en musique, se pose de la manière la plus prégnante, dans l'infini d'un questionnement qui conduit à penser le problème de la forme avec la plus grande acuité. Mozart a beaucoup donné dans le domaine du quatuor, et c'est là, semble-t-il, que son tempérament inquiet a opéré pour le meilleur. L'alchimie mozartienne ne tient pas fatalement de la prestidigitation et de l'étalage des involtes de dons. Et la présence de Haydn, qui a déjà pensé la forme en profondeur au moment où l'enfant Mozart écrit spontanément une œuvrette de style italien, suivant ainsi le goût du jour, s'essayant au genre sans pour autant le pénétrer en profondeur, cette présence va conduire Mozart, au fur et à mesure d'une prise de conscience qui le transformera, à se battre à son tour pour la forme, relevant le défi de son aîné, n'hésitant pas à introduire des dissonances, remettant en cause la trop grande amabilité de conversation d'alcôve, sans pour autant abandonner ce charme qui lui est propre et qui contribue à nous emporter sans discussion possible sur les chemins multiples de l'exploration des sens. Notre invité aujourd'hui est Bernard Fournier, musicologue, premier violon de deux quatuors amateurs et auteur d'une esthétique ainsi que d'une histoire du quatuor à cordes, deux volumes à ce jour parus chez Fayard. Bernard Fournier, Mozart appréhende le quatuor très vite.
Très vite, assez jeune, puisque son premier quatuor, il l'a écrit à 14 ans, à Lodi, mais c'est une œuvre qui n'est pas très caractéristique de son style, donc influencée par le modèle italien. Et puis, il en écrit une série de 6 quelques années plus tard, en 1772, quatuor dit Milanais, qui sont des œuvres en 3 mouvements, plein de joie, pétillant, montant une grande aisance et une grande facilité, mais qui sont d'un style très différent de ceux que Haydn écrit à la même époque. Haydn qui donc met en place le modèle du quatuor viennois, qui sont des quatuors sérieux et extrêmement élaborés du point de vue de la forme. Mozart ne les connaît pas encore. Et puis, dans les années 1772-73, il découvre les premiers quatuors de Haydn, et notamment les quatuors de l'Opus 20, les quatuors du Soleil. Et il est tout à fait influencé par ces quatuors-là, il les trouve admirables et il décide de réformer entièrement son style. Il va écrire 6 nouveaux quatuors, les quatuors viennois, qui sont des quatuors écrits sur le modèle de Haydn et qui sont des quatuors assez expérimentaux. Quatuors qu'il écrit assez facilement, mais qui en fait témoignent à l'écoute d'une certaine âpreté, d'une certaine difficulté assez inhabituelle au style de Mozart. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que Mozart, ce qui n'est pas son habitude, cherche à s'approprier un autre style et il le fait avec difficulté. C'est-à-dire qu'on retrouve les tendances de Haydn, les modèles de Haydn, mais il n'y a pas ce naturel qui est cette aisance, cette facilité d'élocution qui est si spécifique de Mozart. On le trouve dans certains de ses quatuors, mais de manière générale, on est frappé par une espèce de raideur de ces 6 quatuors. Et Mozart, d'ailleurs, en concevra un certain sentiment d'insatisfaction et aura envie de prendre sa revanche, si j'ose dire. Or, entre-temps, il fait la connaissance de Haydn, qu'il ne connaissait que de réputation pour avoir entendu ses œuvres, et il va même faire du quatuor avec lui. Il va d'ailleurs constituer un quatuor avec 2 autres compositeurs, Dietersdorf et Van Hall, et tous les 4 joueront donc divers quatuors, et notamment, ils joueront ceux que Mozart lui-même va bientôt écrire pour son nouvel ami Haydn, les quatuors qu'il lui dédiera, les quatuors opus 10, et qui, eux, vont réellement apporter à la fois non seulement une véritable appropriation du style classique du quatuor viennois, mais en quelque sorte établir une nouvelle éthique, une nouvelle forme qui sera celle sur laquelle s'édifiera l'évolution du quatuor dans les années suivantes. Alors ces quatuors ont été une expérience extrêmement difficile pour Mozart. En écrivant la dédicace de ses quatuors à Haydn, il a d'ailleurs dit qu'ils étaient le fruit d'un long et laborieux effort. Il a effectivement mis 4 ans à les écrire, de 1782 à 1785, et ça représente véritablement quelque chose d'assez exceptionnel dans la vie de Mozart, puisqu'on sait que Mozart écrivait une symphonie en quelques jours et un opéra en quelques semaines. Donc 3 ans et plus pour écrire 6 quatuors, il a fait d'autres choses en ce temps, c'est quand même tout à fait étonnant. Et tout à fait intéressant en même temps de s'intéresser sur les raisons pour lesquelles cela a été aussi difficile. Ces raisons, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Eh bien, d'abord, je le disais, il avait pour la première fois de sa vie quelqu'un en face de lui qui apparaissait au-dessus de lui du point de vue esthétique et stylistique, Haydn. Donc il a voulu l'égaler. Et c'était effectivement pour lui quelque chose de nouveau. Et il a donc essayé de créer un nouveau style, qui était un style contrapuntique, alors que jusqu'alors Mozart avait plutôt un style de type mélodique. Et cette confrontation a été véritablement une sorte de rite initiatique pour lui qui lui a permis certainement de maîtriser ce nouveau genre que jusqu'alors il n'avait fait qu'effleurer du point de vue de son importance esthétique. C'est-à-dire que si vous voulez, à l'époque où Mozart compose ses quatuors dédiés à Haydn, ceux qu'il a jusque-là composés sont des œuvres intéressantes, charmantes, parfois expérimentales, mais qui jamais n'atteignent le niveau des grands quatuors de Haydn. Et là, avec l'opus 10, non seulement il égale son modèle, mais il le dépasse. Et il faudra véritablement attendre les derniers quatuors de Haydn, l'opus 76, pour que Haydn lui-même se mette à ce niveau de langage et d'esthétique qui est celui de Mozart. Alors, ce qu'on peut dire, et qui est intéressant, c'est que ses œuvres sont une expression de la modernité de Mozart. Ses œuvres sont peut-être celles qui sont le déclencheur de toute son évolution. C'est-à-dire que va s'exprimer pour la première fois d'une manière aiguë cette angoisse qui palpite au fond de Mozart. Parce que, curieusement, Mozart n'a jamais été très intéressé ni par la philosophie, ni par la littérature, ni par la politique de son temps. Il s'intéressait essentiellement à la musique. Et tout ce qu'il a, son trouble intérieur, qu'il ne pouvait pas exprimer par les mots et par le logos, c'est dans sa musique qu'il l'a exprimé. Mais il ne l'a pas exprimé directement, il l'a exprimé à travers un masque. C'est-à-dire que, et c'est pour cela que le problème de Mozart est extrêmement délicat et complexe, c'est-à-dire que derrière l'apparente alacrité de l'écriture de Mozart et derrière ce côté bouillonnant et ces frémissements de joie que tout le monde remarque, il y a effectivement une angoisse parce que Mozart, le trouble de Mozart, c'est une espèce de conscience aiguë du tragique inhérent à la condition humaine. Et ce qu'il va exprimer dans ces 3 grands opéras qui suivent immédiatement les quatuors, parce que les Noces de Figaro vont suivre immédiatement les quatuors d'Eli Haydn, puis Don Juan, puis Cosi, donc les 3 opéras dans lesquels il va exprimer le tragique humain, le tragique social dans les Noces, le tragique métaphysique dans Don Juan, le tragique amoureux dans Cosi, et bien tout cela, on peut penser que ça démarre véritablement des quatuors, parce que c'est là qu'il a véritablement senti et exprimé cet inexprimable tel qu'en lui-même, tel qu'il est l'inexprimable, comme le disait, je crois, Simone Veil. Hein. Donc il n'a pas cherché à aller au-delà de la musique, il est allé au fond de la musique, au fond de la musique. Et c'est ça qui donne la grande force de ses œuvres et qui en fait la modernité. Regardez, cette modernité s'exprime aussi en dehors de l'esthétique de l'angoisse, qui pour moi est effectivement un signe profond de la modernité de Mozart, on pourrait voir aussi comment cette modernité s'exprime aussi au niveau de la forme et au niveau du langage. Si on compare par exemple Mozart et Haydn, parce que en fait l'esthétique est surtout intéressante lorsqu'on peut faire des comparaisons entre différents artistes, soit dans le même champ, la musique, soit dans des champs différents. Mais si on compare Mozart et Haydn dans le domaine de la musique, Haydn a été un extraordinaire inventeur de formes, alors que Mozart ne s'est pas trop intéressé à cet aspect-là. Il s'est au contraire coulé comme un coucou dans les formes que Haydn avait inventées avant lui, et notamment la forme sonate. Disons que les six quatuors dédiés à Haydn de Mozart, c'est six œuvres qui illustrent magistralement la forme sonate et qui en produisent l'achèvement suprême à cette époque-là. Il faudra attendre ensuite Beethoven pour aller plus loin. Donc, effectivement, ce n'est pas au niveau de l'invention de formes nouvelles que Mozart va exprimer sa modernité, c'est au niveau de la maîtrise pleine et entière de cette forme. En revanche, dans le domaine du langage, Mozart ira beaucoup plus loin que Haydn, parce que dès ces quatuors-là, il va exprimer un chromatisme. Son langage se traduit par un chromatisme extrêmement moderne, qui d'ailleurs annonce dans certaines pages, comme l'adagio du Köchel 428, le quatuor en mi bémol, le chromatisme de Tristan. On trouve déjà dans l'adagio de ce quatuor le fameux accord qu'on entendra au début du prélude de Tristan. D'autres pages sont absolument stupéfiantes de ce point de vue-là, comme le début du développement du dernier quatuor. Là, je saute un petit peu les étapes, puisque j'en arrive au dernier quatuor de Mozart, le 590, prussien, composé en 1790. Dans ce quatuor-là, au moment d'un mouvement justement extrêmement léger et joyeux composé sur une sorte de ronde populaire, le développement fait surgir quelque chose d'intensément dramatique et avec des dissonances qui conduisent la musique aux limites de la tonalité. Et d'ailleurs c'est tout à fait intéressant aussi parce qu'on s'aperçoit que Mozart, tout comme Haydn, tout comme Beethoven plus tard, cette trinité classique, tout comme la future trinité de l'école de Vienne, met en péril, d'une certaine manière, la tonalité et va tendre la main à un siècle de distance avec ce qui se passera plus tard avec Schönberg, Webern et Berg. Et d'ailleurs, c'est assez intéressant de comparer ces deux trinités parce que, disons, dans la trinité classique, il y a vraiment la figure un peu religieuse de la trinité chrétienne avec Haydn le père, Mozart l'esprit et Beethoven le fils, alors que plus tard, l'école de Vienne, ce sera le père Schönberg avec deux fils, Webern et Berg. Mais c'est très intéressant de voir comment la modernité de Mozart s'exprime justement dans cette position de l'esprit, c'est-à-dire non pas dans une élaboration de la forme, mais dans une palpitation secrète du discours qu'on trouve plus dans le langage que dans l'élaboration des structures.
Bernard Fournier, le quatuor à cordes à cette époque, c'était quelque chose d'un peu secret ?
D'un peu secret, pas tellement, puisqu'en fait le quatuor à cordes était un enjeu de société, si je veux dire. On faisait du quatuor en famille, dans les salons, et on se réunissait pour faire du quatuor. Il n'y avait pas de salle de concert où on jouait les quatuors, on jouait les quatuors chez soi. C'est devenu petit à petit, et justement je pense à partir de Mozart, et à partir de ses quatuors, dédiés à Haydn, un enjeu de réflexion pour le compositeur sur une forme nouvelle d'exigence musicale. Pour ça, il faut revenir à la comparaison entre Haydn et Mozart. Haydn est un génial artisan. Il a inventé cette forme qu'est le quatuor, et de groupe de quatuor en groupe de quatuor, il expérimentait des solutions nouvelles avec une aisance souveraine. Mozart, au contraire, n'avait aucune familiarité avec ce genre. Il en a fait pour des raisons extérieures. Autant la nécessité de Haydn pour écrire du quatuor est intérieure, elle vient de lui, c'est sa forme, c'est son bébé, si j'ose dire. Autant la nécessité d'écriture du quatuor chez Mozart est une nécessité extérieure. Ça lui vient soit de commandes, soit de défis extérieurs. Cette sorte de rivalité avec Haydn dont je parlais. Donc, ce qui est étonnant avec Mozart, c'est que ça va être pour lui une manière de faire évoluer de manière décisive son langage et en même temps de le caractériser. Alors, si on compare, là encore une fois, Mozart et Haydn, Haydn était, j'ai dit, une sorte d'inventeur génial, mais c'était aussi quelqu'un qui était profondément équilibré et qui, sur le plan philosophique, était, il était croyant, déiste, et il était inspiré par une sorte de gravité confiante. D'ailleurs, tous ses quatuors se terminaient par Laus Deo ou In Gloria Deo. Donc il y avait toujours, en quelque sorte, une référence à Dieu et à une sorte d'idéal d'achèvement, de paix et de tranquillité. Gravité confiante, ce qui lui convient bien. Et, curieusement, la forme de ces quatuors, ou la manière dont ces quatuors s'expriment, c'est la forme sonate monothématique, c'est-à-dire qu'avec un seul thème, c'est-à-dire qu'il va, dans la mise en scène de la forme sonate du quatuor, construire son exposition de quatuor sur deux thèmes qui sont le même, mais présentés dans deux tonalités différentes, tonique et dominante, et dans des contextes de texture différents. Chez Mozart, c'est tout à fait l'inverse. Mozart, c'est quelqu'un qui est angoissé, c'est quelqu'un qui est dont la personnalité est profondément duelle. Et cela se traduit immédiatement par le fait que ces expositions de quatuors sont toujours, toujours bithématiques. C'est-à-dire qu'il y a toujours deux thèmes contrastés qui vont s'opposer et qui traduisent particulièrement bien ce conflit intérieur qui est le sien. Mais une fois encore, comme on vit au XVIIIe siècle, qu'il y a des conventions sociales, que Mozart est un être pudique, ces confrontations ne se feront pas de manière violente et disruptive comme plus tard chez Beethoven, qui est lui aussi une personnalité dialectique et conflictuelle. Mozart va masquer son conflit sous l'apparence de la conciliation. Mais néanmoins, la dualité et la manière dont se distinguent les esthétiques de Mozart et de Haydn est tout à fait révélatrice de ce point de vue. Donc, bithématisme traduisant ou révélant une personnalité conflictuelle chez Mozart, monothématisme chez Haydn. Et deuxième chose très intéressante que nous révèle l'Équateur, c'est la manière dont Haydn conçoit son évolution de la forme sonate, c'est-à-dire le rapport entre exposition et réexposition. La réexposition est toujours différente de l'exposition, avec des surprises, des choses nouvelles. Chez Mozart, l'exposition se replie, la réexposition se replie toujours sur l'exposition, dans une grande symétrie, ce qui est en fait une forme profonde de pessimisme. C'est-à-dire qu'on voit bien à quel point Mozart ne croit pas au progrès. Bon, Mozart pense qu'il y a une espèce de fatalité qui fait qu'on est enchaîné à son destin et que les choses, quels que soient les mouvements que l'on fasse, les choses reviendront là où elles sont parties. Il y a même dans un de ses quatuors un véritable palindrome. C'est un des quatuors viennois, le Köchel 173, je crois, donc, où l'adagio est véritable palindrome qu'on trouvera dans l'école de Vienne. Donc ça, c'est très intéressant aussi parce qu'on voit bien à quel point la forme exprime le sens et à quel point la forme exprime la nature différente des personnalités de ces deux compositeurs que sont Haydn et Mozart. J'ai pris cet exemple d'une structure d'exposition et du rapport entre exposition et exposition. On pourrait le voir aussi à d'autres aspects, comme par exemple la manière de concevoir le travail thématique ou de manière générale la mise en scène des thèmes. Mais peut-être que ça nous entraînerait un peu loin. Disons que le quatuor, c'est ça qui me paraît le plus intéressant, apporte, si on regarde en détail le quatuor de Mozart, ça apporte deux choses. D'une part, la révélation, pour lui, la révélation d'une nouvelle façon d'écrire de la musique, une nouvelle façon de concevoir une esthétique et d'exprimer son dramatisme intérieur, son angoisse intérieure, et d'autre part, l'affirmation de sa personnalité musicale.
Est-ce que l'aspect conversation, qui est à la base du quatuor, donc l'aspect théâtral en même temps, est très présent
Oui, et tout à fait. Là aussi, c'est très intéressant parce qu'on dit toujours que le quatuor de Haydn, c'est la conversation en musique. C'est vrai. Mais chez Haydn, par exemple, les quatre voix sont relativement équilibrées. Mais il y a, du début à la fin de son parcours, une nette prédominance du premier violon. Il va donner de temps en temps un peu plus la parole au violoncelle. Il a écrit lui-même des quatuors prussiens, comme Mozart le fera plus tard, pour le roi de Prusse qui était effectivement violoncelliste, mais c'est pas pour autant qu'il va donner une importance plus grande au violoncelle, alors que Mozart, dans ses quatuors prussiens, va écrire de vraies parties presque concertantes pour le violoncelle. Mais indépendant de cet aspect anecdotique, de manière générale, l'écriture instrumentale des quatuors de Mozart est beaucoup plus équilibrée et beaucoup plus, donne beaucoup plus de place aux quatre instruments, au dialogue instrumental, je dirais plutôt qu'à la conversation, au dialogue, c'est-à-dire la manière dont la dynamique des voix se construit à travers l'interaction de chacune d'elles, et avec une importance particulièrement grande accordée au second violon et à l'alto, et particulièrement à l'alto. Alors, c'est pas complètement innocent, parce que Mozart tenait lui-même la partie d'alto dans les quatuors. Il a toujours adoré l'alto, ce qui lui a dit, c'est pour ça d'ailleurs qu'il a écrit de superbes quintettes à deux altos, on pourra en reparler. Mais il tenait la partie d'alto, et il a toujours attaché beaucoup d'importance aux parties intermédiaires. C'est pour ça que les textures de Mozart, à partir des quatuors dédiés à Haydn, sont beaucoup plus fournies et plus riches et plus interactives que les quatuors de Haydn. Dans Haydn, le premier violon joue, et avec un accompagnement qui est assez dynamique, mais beaucoup moins interactif que chez Mozart. Et à ce point de vue, un des exemples les plus extraordinaires, un des plus beaux développements qui ait jamais, développement thématique qui a été écrit avant Beethoven, c'est celui du Köchel 421, le premier mouvement du Köchel 421, qui est bref mais admirable. Et d'ailleurs, là, c'est aussi intéressant de voir la différence entre un développement mozartien et un développement haydnien. Haydnien faisait des développements longs, dans lequel le premier violon, sur un rythme motorique, parcourt divers paysages, diverses tonalités, en faisant varier peu à peu le matériau. Chez Mozart, c'est beaucoup plus bref, c'est concentré, mais finalement, les motifs eux-mêmes se transforment beaucoup plus. Dans ce Köchel 421, il arrive à une superposition de quatre motifs différents au même moment, alors que Haydn, c'est quand même deux motifs de type différent superposent, mais pas beaucoup plus. Donc il y a une plus grande complexité du développement mozartien que du développement haydnien. Cela dit, la conception même de développement est plus dans l'esprit de Haydn que de Mozart. C'est ça qu'il faut bien voir et qui est assez intéressant du point de vue philosophique. Parce que justement, Haydn, optimiste, croyait au travail de l'élaboration. Mozart, dans ses développements, qu'il fait bref, exprime encore une autre manière son angoisse. C'est-à-dire que c'est l'impossibilité à finalement... Le développement de Mozart, c'est d'une certaine manière l'impossibilité à développer, puisque la réexposition va ramener l'exposition presque telle qu'elle, avec une résolution conventionnelle, mais aucune véritable modification de la situation discursive entre exposition et exposition. Tandis que chez Haydn, il y a une modification de la situation, souvent une modification de la situation discursive.
Est-ce qu'on peut dire la même chose des quintettes ?
On a souvent tendance à considérer que les quintettes sont supérieures aux quatuors. Bon, les quintettes, il en a composé 6. C'est un groupe hétérogène. Il y a un quintet de jeunesse qu'il a composé tout juste après le dernier quatuor viennois, le Köchel 174, qui est une très belle œuvre, mais qui est du niveau des quatuors viennois. Et il a composé ensuite deux partitions magistrales, le Köchel 515 en ut majeur et 516 en sol mineur, qui viennent tout de suite après les quatuors dédiés à Haydn. Et en fait, il les écrit avec beaucoup plus de facilité que les quatuors dédiés à Haydn, parce que tout le travail... Parce que pourquoi est-ce que... Mozart a eu tant de mal à écrire ses quatuors, pourquoi ? C'est pas seulement parce qu'il avait ses problèmes d'inhibition par rapport à Haydn et que le quatuor est un genre difficile, mais c'est qu'en même temps, il s'appropriait véritablement un nouveau langage, une nouvelle façon d'écrire. Et ça va lui servir pour les quintettes, donc il les écrira sans doute plus facilement aussi. Mais, et puis par ailleurs, il avait ce goût pour l'alto. Donc il a effectivement écrit deux remarquables chefs-d'œuvre avec les quintettes, mais à mon avis, tout à fait subjectif et personnel, ces quintettes magnifiques ne vont pas plus loin que les six quatuors dédiés à Haydn. Et du point de vue du dialogue instrumental, d'ailleurs, disons qu'il y a même un petit recul, c'est-à-dire que la conversation, puisque vous le disiez tout à l'heure, le dialogue est plus intriqué, plus serré, plus dynamique, plus vif dans certains des quatuors, notamment le 421 ou même le 428, que dans les quintettes. Mais ce qui est intéressant dans les quintettes, et notamment dans le quintet 516 en sol mineur, c'est que justement, c'est un petit peu après, comme dans le 421 ou le 428, mais peut-être de manière plus marquée, c'est le moment où Mozart laisse tomber le masque. Un des rares moments où il laisse tomber le masque. Parce que, je vous l'ai dit, Mozart écrit toujours avec un masque. D'ailleurs, son angoisse est masquée. Et là, dans le Quechelle 516, une œuvre profondément tragique, avec une série de mouvements lents, le même moment où commence le final, on sombre encore d'un degré dans la dépression et dans l'angoisse. Et c'est le véritable étouffement, à tel point que vraiment, quand on pense à des airs aussi désespérés dans l'histoire de la musique, on n'a guère que le recours de penser à Shostakovich du 15e quatuor, où on a six mouvements enchaînés, six mouvements lents enchaînés, eux aussi complètement désespérés. Donc c'est stupéfiant du point de vue de la modernité esthétique. C'est-à-dire qu'on n'imagine pas au 18e un compositeur écrire une page aussi désespérée. Alors bien sûr, Mozart sauve la face avec un final débridé et joyeux, mais pas si joyeux que ça, parce qu'en fait le thème principal qui est repris n'est autre que la reprise en majeur. Donc du thème, d'un des thèmes principaux du premier mouvement. Donc c'est encore un masque, ce final. Donc très superbe quintette. Mais je tiens à dire que ils viennent après les quatuors. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, tout est déjà là.
Les chemins de la musique. Mozart multiple. Par Christian Rosset. Aujourd'hui, un long et laborieux effort, les quatuors à cordes de Mozart, avec Bernard Fournier, musicologue et violoniste. Réalisation, Pascal Baranzelli, Claire Levasseur, Nathalie Salles, Françoise Cordet.